Pensez-vous que la gauche manquait d'une candidate tapée 1? Pensez-vous au contraire que la gauche a fait son plein de candidats tapés 2? Ça ressemble à un jeu télévisé, mais ça n'en est pas un. C'est vrai, le spectre de la candidature Taubira planait depuis plusieurs semaines. Le suspense a donc été rompu quand l'ancienne garde des Sceaux est apparue aujourd'hui, 3 minutes sur Facebook, avec notamment ce message.
Il y a des candidatures de personnes de grande valeur pour qui j'ai de l'estime et de l'amitié. Mais je constate l'impasse. J'ai toujours dit que je prendrais ma responsabilité. Pour cela, j'envisage d'être candidate à l'élection présidentielle de la République française. Je ne serai pas une candidate de plus. Je mettrai toutes mes forces dans les dernières chances de l'Union. Je vous souhaite de bien finir l'année. Je vous invite à prendre soin de vous, de celles et de ceux que vous aimez. Et je vous donne rendez-vous à la mi-janvier.
Voilà, il était un peu plus de 11h ce matin. Il n'a pas fallu beaucoup de temps à voir apparaître Anne Hidalgo qui du coup saisit la balle au banc pour à nouveau proposer son idée de rassemblement et de débat.
Débattons devant nos concitoyens. Assumons ensemble de venir présenter nos propositions, de faire émerger, je l'espère, les convergences, mais aussi, bien sûr, de montrer les différences. Débattre devant les Françaises et les Français sur une chaîne de télévision pour pouvoir exprimer ce que la gauche, ses différentes composantes, porte aujourd'hui devant les Français dans cette élection présidentielle.
Un débat, une primaire, vous imaginez la réaction de Yannick Jadot? Allez, je vous laisse écouter.
Moi, je ne retournerai pas dans une primaire avec un socle programmatique qui quand même pas à la hauteur de notre ambition climatique, qui n'est pas à la hauteur de notre ambition sur l'Europe. Que chacun mène les processus démocratiques qu'il considère les plus pertinents. Attention à ne pas détourner l'attention des Françaises et des Français de nos propositions pour faire, encore une fois, pour résoudre des candidatures qui sont dans l'impasse et qui sont en difficulté et qui essayent de trouver une porte de sortie avec un pseudo-débat démocratique qu'ils n'ont pas voulu avoir les précédents mois.
Voilà, pseudo-débat démocratique, Yannick Jadot, vous l'entendez, totalement exaspéré, qui rajoute « Je poste une vidéo de 3 minutes, je reviens dans un mois, c'est pas totalement à la hauteur des difficultés que rencontre notre pays ». Qu'est-ce que ça change, la candidature Taubira, dans cette course à la présidentielle, Louis Osalter?
Pour l'instant, pas grand-chose si l'on en croit le sondage qui donne Christiane Taubira à 2%. Ça peut changer des choses de manière symbolique parce que, assez mystérieusement, Christiane Taubira est un peu la béatifiée, la figure de gauche béatifiée en quelque sorte. C'est-à-dire que dans l'imaginaire
par quel miracle,
de la gauche.
De suivre votre métaphore.
Par le miracle le plus récent, c'est le mariage homo. C'est-à-dire que c'est par le mariage homosexuel qui est la dernière. Conquête du progressisme revendiqué de la gauche, c'est elle qui en est la grande ordonnatrice, en tout cas la grande oratrice en 2013, pendant le quinquennat de François Hollande. Et en fait, c'est ça qui entraîne toute une réflexion sur ce qu'est devenue la gauche. C'est-à-dire que maintenant, c'est uniquement par les réformes sociétales qu'on devient une icône de gauche. Et moi, je ne sais pas ce que pense Christiane Taubira, parce qu'elle en a très peu parlé. De toute façon, elle a très peu parlé ces dernières années de la désindustrialisation, du déclassement des classes moyennes, du mouvement des gilets jaunes, des inégalités économiques
et sociales. Elle n'avait pas non plus déroulé un programme à sa première vidéo où dit qu'elle envisage d'être candidate.
Bien sûr, mais on a une candidature, une possibilité de candidature qui arrive comme un cheveu au milieu de la soupe sans qu'on sache exactement de quel corpus elle sera faite. C'est-à-dire que Christiane Taubira est créditée d'être l'icône qui pourrait sauver la gauche, alors même que sur le fond, on ne sait absolument pas ce qu'elle pourrait apporter comme plus-value.
Bah, rendez-vous le 25 janvier.
Oui, on verra bien. Mais, et puis,
c'est loin d'ailleurs le 25 janvier.
Et je compléterai en ajoutant, en fait, ça me rappelle, Taubira, c'est un peu la Zemmour de la gauche, sans les intentions de vote pour l'instant. Oui. Mais je vous dis pourquoi. C'est parce qu'il y a cette espèce d'aspiration à la pureté idéologique, à la grande figure qui en fait dirait les choses qu'attendrait le peuple de gauche comme Zemmour dirait les choses qu'attendrait vraiment le peuple de droite et qui serait la grande oratrice, la grande voix qui irait sauver son camp politique parce que ce serait elle qui serait la plus pure idéologiquement et la plus claire. Alors les intentions de vote ne suivent pas derrière, mais vous voyez pourquoi je fais cette comparaison sur les deux camps de l'échiquier politique.
Jeannette Bougrade.
Juste deux petites remarques. C'est bizarre parce que vous parliez du mariage pour toutes et pour tous. Mais par contre, la PMA pour toutes, vous l'oubliez, alors c'est aussi un progrès. C'était quelque chose qui était attendu, notamment pour de nombreuses femmes. Donc,
oui, mais ce n'est pas Taubira qui l'a fait.
Oui, je sais, mais vous dites la dernière, dernière mesure progressiste à qui l'on
doit... Oui, j'ai dit revendiquée par la gauche. Voilà. Comme la PMA, c'était Macron, je compte. Bon,
donc
qui
vous
ne
dites
se dit
plus...
pas de gauche.
Bon, bah alors, du
non,
coup,
c'est
voilà.
Pour ça. C'est pour ça. Deuxième remarque, c'est pour ça.
Deuxième remarque, c'est que la dernière fois qu'on l'a entendu, c'était qu'elle elle n'appelait pas à faire vacciner, notamment la, en Guyane. Donc, de dire, on est en pleine sixième vague, on nous annonce pour d'ici Noël 4000 patients en réa, on va entendre un témoignage poignant. De se dire qu'on ne l'a pas entendu depuis longtemps, la dernière fois qu'on l'a entendu, ce n'était pas très rassurant parce que justement, elle refusait d'appeler ouvertement à se faire vacciner. Donc là-dessus, non. Moi, cette auréole, je vais l'enlever assez brutalement,
c'est vrai,
pardonnez-moi, alors qu'on a encore, je crois, 200 personnes qui meurent.
Que dit le PS dans tout ça, Édouard Dorian-Sipel ?
Je crois qu'aujourd'hui, tout le monde à gauche constate la difficulté dans laquelle nous sommes. L'impasse, même pour reprendre y compris les termes de Christiane Taubira, mais qui étaient aussi ceux d'Anne Hidalgo.
Vous posez ça élégamment. Hein.
C'est la situation dans laquelle la gauche se trouve. Je fais toujours le pari de l'élégance.
Oui, oui, bravo.
C'est l'esprit français.
Oui, c'est vrai.
Et donc, il y a une difficulté. Il y a une difficulté aujourd'hui. Tout le monde voit qu'aucune des candidatures n'arrive seule à essayer de jouer le second tour, de se qualifier, d'être utile donc, pour le pays. Et d'ailleurs, c'est ce qui a fait qu'Anne Hidalgo a proposé d'abord une primaire, d'essayer que tout le monde discute et trouve une solution. Et je constate aujourd'hui, avec l'engagement de Christiane Taubira, qui est une grande dame de la gauche et de la politique française, je constate qu'il y a une convergence. Il y a une convergence de vues sur la difficulté et l'impasse et la nécessité de discuter. Et donc, je crois que ça, cette discussion, elle est nécessaire. Le débat est nécessaire, c'est ce que propose aussi Anne Hidalgo. Et je crois qu'il faut maintenant laisser le temps au temps, même si le temps est compté.
C'est ce que dit Yannick Jadot. Il dit, reste 4 mois, on n'a vraiment pas le temps de faire ça.
Oui, mais en même temps, de rien faire conduit à l'échec. Comprenez ?
Il ne s'agit pas de rien faire, il s'agit de
bouger. Il s'agit de sortir du statu quo. Est-ce qu'un rassemblement est possible ? Est-ce que des discussions sont possibles ? Est-ce qu'on veut vraiment le rassemblement ? C'est-à-dire, est-ce qu'on veut vraiment autre chose que juste être devant le Parti Socialiste ? Ou est-ce qu'on veut être au second tour de l'élection présidentielle ?
Est-ce que Yannick Jadot veut le rassemblement, selon vous ?
S'il le veut vraiment, et si Europe Écologie Les Verts le veut, je pense qu'il faut qu'il le montre, qu'il tende à leur tour une main, qu'il réponde à la possibilité d'une discussion. Il faut ne pas non plus mettre des pressions, et je dirais une pression trop visible, médiatique, qui surplomberait les discussions à gauche. Il faut, je crois, maintenant que Christiane Taubira a posé sa proposition, que Anne Hidalgo a répondu, que les discussions se fassent, et moi je suis convaincu qu'on va discuter. Je veux croire qu'un rassemblement, quelque chose comme une unité, un dépassement des candidats actuels, soit possible, parce que c'est la seule condition pour être sérieux. Je crois que ce sont les électeurs de gauche qui l'attendent. Hein. Soit on est en phase avec nos électeurs qui demandent un rassemblement, soit nous savons très bien quel sera le scénario.
François Pupponi.
Non, mais si effectivement, à gauche, ils constatent qu'aujourd'hui, avec le nombre de candidats, ils ne peuvent pas y arriver, il faut effectivement qu'il y ait un rassemblement. Rassemblement, on dit quel est le meilleur pour gagner. Quel est le meilleur pour gagner ? Aujourd'hui, si on regarde les sondages, ce sont les sondages. Le meilleur pour gagner, c'est Jean-Luc Mélenchon ou Jadot. Et donc, il suffit que les partialistes ils disent « Ok, moi je considère que nous, on ne peut pas y aller. »
Gagner quoi, il y a combien, cher François ?
Non, mais gagner déjà faire un score honorable. Bon. Et puis jouer le deuxième tour. Et de se dire pourquoi on ne peut pas être qualifié pour le deuxième tour. Pour ça, il faut être autour entre 16 et 20%, parce que c'est les scores, ok. Bon, donc il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui dise, écoutez, moi, je dis sincèrement, je serais Hidalgo, je dirais, écoutez, on voit bien qu'on a du mal, on a fait 6% de dernière présidentielle, moi, je vais essayer de sauver la gauche et je me retire pour Jadot. Et puis, on y va. Voilà, je fais acte de... Je me sacrifie pour essayer de sauver la gauche. Parce que sinon, on va se voir pour discuter... Enfin, quand il dit, ils vont se voir, on va se voir pour discuter de quoi ?
Ce qui me surprend, mais
De qui on sait à peu près qui
est
le mieux.
C'est la question que j'ai posée.
Qui est le mieux placé ? Enfin, qui est le mieux placé, à peu près. Donc après, on va se voir pour discuter des législatives, on va se voir discuter de plein de choses.
Voilà. Pardon, d'abord du projet.
Oui, d'accord, du projet, des législatives. Non, mais d'accord, Mais donc, il faut bien qu'à un moment, quelqu'un fasse le pas.
À 4 mois,
c'est ça. Il faut que quelqu'un fasse pas la question.
Venons-en au fond, et moi, j'aimerais bien entendre Édouard Dorian-Sipel sur d'accord, très bien, le fond, c'est quoi ? De quoi est-ce qu'on parle ? Et on commence par où surtout ?
quel projet pour la France. Enfin, il s'agit d'une élection présidentielle. Au Parti Socialiste, François Pupponi, il le connaît très bien. Il a plus d'antériorité que moi, par ailleurs. On sait faire, on a su faire. Donc, on est disponible pour montrer comment est-ce qu'on peut faire un projet qui permette de rassembler les Français, mais on peut aller très vite. Parce que vous savez, sur l'essentiel, il faut arrêter aussi avec les hypocrisies. Hein. Sur l'essentiel, je crois que la gauche, elle se retrouve. Il ne faut pas expliquer qu'on n'est pas capable, même en 3 semaines, de trouver un projet cohérent. Parce que quand on sait ce qu'on pense soi-même, on est capable de le partager avec les autres et très vite faire la différence entre ce qui est possible de faire, ce qu'on est d'accord pour faire ou pas. Donc, moi, je crois que l'unité, le rassemblement, c'est d'abord un état d'esprit, une volonté. Moi, je constate, j'ai le sentiment, je peux me tromper, qu'à Europe Écologie Les Verts, le principal objectif n'est pas d'être au second tour, c'est d'être devant le Parti Socialiste et le premier à gauche. Tout le monde veut être premier à gauche, mais personne ne veut être au second tour de la présidentielle. Ce n'est pas sérieux. Donc, si on veut être sérieux, il faut essayer de faire ce que la gauche a toujours su faire quand elle était au rendez-vous, atteindre suffisamment de score pour être au second tour. Sinon, les électeurs, ils vont aller voir ailleurs. La moitié des électeurs de gauche iront chez Macron et le reste se dispersera par ailleurs.
Vous n'avez pas voulu le dire tout à l'heure, mais vous le dites là, avec vos mots, Yannick Jadot, cela joue perso, vous pouvez le dire.
Je peux comprendre, non, je ne dirais pas ça, parce que parce que si je veux le rassemblement, il faut être élégant, comme vous disiez. Élégant et intelligent. D'abord, soyons sérieux. Un chat, Yannick Jadot a déjà fait une primaire écologiste. Il faut leur reconnaître ça. Je comprends sa position d'une certaine manière. Hein, il a fait une primaire. On ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir fait une primaire. Il a fait une primaire, il a gagné.
Oui.
Et beaucoup pensaient qu'il n'allait pas la gagner. Hein. Mmh. Bon, donc, je comprends qu'il tienne à sa place et qu'il tienne dur sur sa position. Mais je pense qu'il peut aussi essayer de réfléchir, vu l'impasse qui est aussi la sienne. Et c'est à eux de savoir quel est leur principal objectif stratégique. Est-ce qu'ils peuvent aller plus loin, faire un peu de sacrifice, de compromis, comme tout le... C'est très simple. Tout le monde a besoin de faire un compromis, donc une part de sacrifice. Il n'y a pas d'unité, par ailleurs.
Quoi, non ?
Donc,
non,
soit on est ça, on se met d'accord, sinon on sera dans...
Comment ça, c'est de la tambouille, Jeannette Bourrat ?
Les sondages vous le disent déjà, le résultat.
On a l'impression d'être sous la Troisième République.
Non, ne dites pas ça. C'était une grande république, la Troisième.
Laissez parler Jeannette Bourrat, elle veut développer son idée.
Je n'ai pas dit que c'était les grandes lois républicaines, les lois syndicales, les lois sur la presse, la liberté d'association, c'est la Troisième République. Donc, les premiers jours de congé pour les travailleurs, c'est la Troisième République. Donc, jamais je remettrai en cause l'héritage républicain de la Troisième. Mais c'est des tambouilles d'appareils de partis politiques. On essaye d'habiller ça en disant que ça va être de la démocratie. Ce n'est pas le cas. C'est vraiment pas le cas. Et on comprend rien à ça. En fait, on a l'impression que le seul qui est raisonnable, c'est quand même Yannick Jadot.
Louis Alter, pardon.
Aujourd'hui, il y a dans les intentions de vote, 2/3 des électeurs de Macron viennent de la gauche. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que plus il y a de candidats de gauche, au fur et à mesure qu'il y a des candidats de gauche, il n'y a pas des électeurs de gauche qui viennent vers ces candidats. Donc, c'est-à-dire que la multiplication des offres, qui en fait n'en sont pas, parce que, par exemple, Hidalgo, pour ne prendre qu'elle, j'ai du mal à voir depuis le début quelle est exactement l'offre politique qui rencontre une attente dans le pays. Taubira, je viens de poser l'équation, c'est pareil. Bon, elle ne l'a pas dit, peut-être qu'elle le formulera, mais je ne vois pas exactement l'offre politique. Je vois un peu mieux chez Mélenchon. Là, je trouve que, du coup, il y a une différence idéologique qui est irréconciliable. C'est-à-dire que vous avez raison, il n'y a pas de différence entre les candidats de gauche, il n'y a pas de différence fondamentale. C'est-à-dire que pour le projet, je ne pense pas que ce soit ça qui pose la difficulté. Je pense que c'est plutôt, un bal des égaux, et deux, la tétanie de l'effacement. Parce que pourquoi Hidalgo ne s'efface pas et pourquoi l'appareil du PS reste derrière ? C'est parce que se retirer pour le PS, ça veut dire acter le fait que dans l'histoire, c'est la fin du Parti Socialiste à la présidentielle et ce sont les écologistes qui prennent la place presque électorat pour électorat, ou en tout cas ce qu'il en reste. Donc ça, ce serait vécu comme un drame par toute une partie de l'appareil du PS, cette tétanie de l'effacement, et elle joue aussi pour les écologistes qui disent « La dernière fois, Jadot s'est retiré en 2017 pour laisser Hamon y aller, avec le résultat qu'on connaît, donc maintenant, c'est notre tour, voilà ce qu'ils disent. » Et je reviens juste à Jean-Luc Mélenchon pour dire que là, il y a une vraie différence idéologique sur l'Europe, sur l'économie.
Bien entendu, sur la République, sur l'Europe.
Sur la laïcité, il y a des vraies différences idéologiques. Donc que sur Mélenchon ne partage pas le projet et que du coup il ne participe à aucun mode de départage des candidats de gauche, ça je trouve ça tout à fait naturel. En revanche, entre une Taubira, une Hidalgo, un Jadot, c'est vrai qu'on se dit
le grand problème de ces candidats,
c'est beaucoup plus complexe
juste,
que ça.
Juste pour apporter un point,
Jeannette Bougrabe et ensuite François Pupponi.
C'est que ces candidats de gauche ne sont plus réellement républicain. Le vrai sujet, ce qui faisait la force en fait de cette gauche, c'était une gauche républicaine, c'est-à-dire celle qui était attachée à l'égalité. Aujourd'hui, Christiane Taubira, sans parler de wokisme ou de cancel culture, elle incarne quand même cela. Donc où sont partis tous ces idéaux, en tout cas tels qu'ils pouvaient les incarner les hussards de la Troisième?
Elle incarne la gauche sociétale, pas la gauche sociale.
Mais la vraie rupture entre les socialistes, la gauche socialiste et les écologistes, aujourd'hui, c'est les écologistes disent, ce qui était un peu moins le cas avant, voilà. Nous maintenant, on ne va plus transiger. Si l'écologie, des mesures drastiques pour sauver la planète ne sont pas prises dans un programme présidentiel, on n'y sera pas. Voilà. Et ça veut dire qu'en fait, ils disent, voilà, où vous nous suivez sur ces thèmes-là, et on est beaucoup plus exigeant qu'on l'a été, y compris dans la dernière mandature, où on voyait la pression qui était sur la majorité, et on le voit, y compris dans cette majorité-là, comment des gens comme Orphelin, Mathieu Orphelin, sont partis à un moment, parce que Nicolas Hulot, sont partis en disant, voilà, le compte n'y est pas. Et là, Jadot et les écologistes, ils disent, nous, on ne fera plus de concessions là-dessus. Voilà. La situation est trop grave.
On leur donnera un portefeuille ministériel comme Barbara Pompili.
Non, je ne crois pas. Je pense que maintenant, ils disent, stop, ça, on ne veut plus. Bon. Et donc la vraie question, c'est est-ce que le Parti Socialiste est capable de renoncer au nucléaire, de renoncer à un certain nombre de parce que le problème des écologistes, c'est qu'ils ont une écologie punitive. C'est, on va taxer, on va empêcher, on va contraindre. Je prends un exemple très précis quand on parle du foie gras. Est-ce que tous les élus socialistes des territoires du Gers et d'ailleurs, ils sont d'accord pour dire ouais, d'accord, on va supprimer.
J'adore le foie gras.
Le maire de Bordeaux était un peu moins.
J'adore le foie gras.
Je ne suis pas pour la souffrance des animaux.
C'est vraiment deux conceptions. C'est vraiment deux conceptions.
Non.
Deux conceptions. Deux sociétés différentes. Et de sociétés différentes où on veut changer les choses complètement. Et aujourd'hui, je ne suis pas sûr que le PS soit vraiment prêt. Ou alors, il faut qu'il accepte de dire « Ok, on accepte
de payer les fiches sociales de ces mesures. »
Christiane Taubira, puisqu'on parle d'elle, sera demain, samedi matin, demain, à Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis, pour son premier déplacement, après avoir justement fait cette déclaration de candidature. 18h16, une pause, et Eduardo Riancipel, qui voulait prendre la parole, la prendra juste après la pause. À tout de suite.
Europe Soir Weekend. Pierre de Villeneuve.
Suite des débats d'Europe Soir avec l'essayiste Janet Bougrab, Louis Osalter, mon confrère de Marianne, le député du Val d'Oise François Pupponi et Eduardo Riancipel, membre du Conseil national du PS. Et Eduardo Riancipel, à l'instant, on disait que finalement, est-ce que ça serait un déshonneur pour le PS que ce soit les Verts, cette fois-ci, qui mènent la gauche à la présidentielle?
Je crois que la question, il ne faut pas la poser comme ça. Pourquoi pas ?
Moi, je vous la pose comme ça.
Très bien.
Est-ce que c'est un déshonneur, oui ou non ?
Non, mais ce serait un déshonneur. Il n'y a pas de déshonneur. Ce serait très maladroit et dommage si on y va sans rien préparer à l'avance. Je veux dire, il y a plutôt de l'honneur à y aller rassembler sur un projet en sachant ce qu'on fait ensemble. Ça, c'est le grand honneur. Et dans ces conditions, je crois qu'il faudrait discuter pour
y
arriver.
Mais il y a ensemble avec une tête de gondole.
Mais
abandonner
juste parce que... Non,
que
mais franchement, je crois que l'idée de se dire, tiens, on va abandonner parce qu'il a 2 points de plus que moi dans le sondage, tout ça ne serait pas très sérieux.
Mais ce n'est pas une histoire de sondage.
Je crois qu'au contraire, si on veut le faire, on sait le faire. La méthode, elle est connue. On s'assoit autour d'une table. On discute et on pose des points. Vous savez pourquoi la gauche, à mon avis, elle souffre dans cette élection? C'est parce qu'elle n'est peut-être pas suffisamment claire sur une ligne social-démocrate capable de gouverner la France. Je crois qu'il faut clarifier les choses sur ce point. C'est
possible,
tout.
C'est pas
la peine de tourner le schmilblick dans tous les sens. Il faut concilier une politique social-démocrate
avec
l'écologie. Il faut une gauche sociale et républicaine.
Il va vous répondre.
Et donc, moi, je crois que sans projet, sans clarification, les électeurs sont perdus.
Qu'est-ce que vous en pensez de ça?
Le seul problème, c'est qu'il faudra expliquer ce que dans la politique du gouvernement actuel et d'Emmanuel Macron, il n'y a pas eu de social-démocratie. Qu'est-ce qu'on enlève?
On peut aussi avoir ce débat-là.
Non, mais qu'est-ce qu'on enlève de ce qui a été fait? Moi, je vois, on l'a dit toujours sur les quartiers, le doublement des classes, l'augmentation du financement de l'ANRU, la présence, les aides aux jeunes en difficulté, etc. Ça, c'est des réalités. On fait pareil ou on ne fait pas pareil? Bon. Et sincèrement, c'est des mesures social-démocrates.
Et puis de l'autre côté.
Je finis. C'est des mesures social-démocrates. Par contre, s'il doit y avoir discussion, elles ne peuvent avoir lieu entre le Parti Socialiste et les Verts que si la candidate du Parti Socialiste dit « Voilà, moi, je veux bien discuter et je suis prêt à me retirer si on tombe d'accord. » Là, Jadot va dire « Venez. Oui. » Si on dit « On ne se met pas d'accord sur qui est candidat, on parle du... » Jadot, il dira « Jamais, non. » Par contre, si on dit « Si on tombe d'accord sur le fond, moi, je me retirerai. » C'est une autre manière de commencer la négociation.
Non, mais elle a proposé une méthode
de
travail, c'est la primaire, et elle a proposé un débat.
Elle l'a refusé il y a quelques mois.
Oui, non.
Oui, non. ou non.
La situation actuelle fait que il y a une situation qui est difficile et dont on ne sortira pas s'il n'y a pas un effort de chacun. Il faut louer Anne Hidalgo d'avoir fait l'effort. Moi, je crois que c'est normal parce que, soyons clairs, c'est qu'est-ce qu'on fait sur la croissance ? Quelle stratégie de croissance ? Ou c'est la décroissance ? Quelle est notre ligne sur la République ? Est-ce qu'on peut clarifier aussi les choses sur la politique nucléaire et énergétique ? Vous savez, si avec François Hollande, entre 2012 et 2017, nous avions fait la loi sur la transition énergétique, François Pupponi s'en souvient très bien, les écologistes l'ont votée, elle était bonne, elle réduisait le nucléaire à 50% de notre mix énergétique en développant les autres énergies renouvelables.
Elle a été détricotée.
Elle est réaliste, on peut l'adapter. Nous devons parler aujourd'hui. La gauche, elle doit se rassembler, elle doit s'adresser aux Français. Il y a des problèmes de pouvoir d'achat qui vont bien. Le prix de l'énergie va augmenter. Il faut qu'on ait des réponses solides pour les Français.
Je reprends votre image de la table, on s'assoit à table. Pourquoi est-ce que, avant chaque présidentielle, dans ce genre de cas de figure, on veut d'abord créer une incarnation et ensuite parler du fond ? Je reprends votre image de la table. Pourquoi est-ce qu'on ne discute pas du fond ? On prend Jadot, on prend Taubira, on prend Hidalgo, on prend qui vous voulez, ils se mettent autour de la table, ils discutent du fond et ensuite...
Nous sommes tout à fait d'accord. Et c'est un peu le sens. C'est un peu le sens de la proposition d'Anne Hidalgo, y compris de le faire publiquement dans un débat ouvert.
Mais en tout cas, sur
cette méthode, moi, je vous rejoins. Je pense que on est à l'incarnation de quoi ? Soi-même. Excusez-moi. On vote pas pour. Il y a des stars de cinéma pour ça. L'idole politique, il est pas là pour ça et ils sont d'ailleurs crépusculaires très vite. Donc non, on vote pour une incarnation qui incarne des idées. C'est la tête de gondole d'un projet. C'est le point de rencontre d'un ensemble de forces. C'est la tête qui dépasse, mais celle d'un collectif. Et tout l'art de la politique, sous la cinquième du moins, parce que les institutions surdéterminent les choses, c'est incarner quelque chose parce que cette incarnation, elle va sur des idées, un projet.
C'est pas à chaque fois comme ça pour Nicolas Sarkozy
en 2007, pour François Hollande en 2012, Emmanuel Macron en
2017. Pour avoir connu comment ça s'est passé pour Nicolas Sarkozy, il a pris le parti 2 ans avant de rentrer en campagne.
Il avait un projet, il a incarné des idées.
Il a mis deux ans à construire un projet à travers des conventions thématiques. Il avait une cellule qui était dirigée par Emmanuel Mignon, qui avait recruté parmi des jeunes hauts fonctionnaires qui grattaient. Il y avait des grandes conférences qui étaient aussi délocalisées. Il faisait venir à lui des gens de la société civile. Il a restructuré un parti politique en recrutant de masse des militants. Il était à 370 000 adhérents à la fin de...
Ça a été une très grande machine professionnelle, donc, d'ailleurs.
Là,
ça a été une élection brillante.
Et même François Hollande en 2012, ça vient pas de nulle part, qui a été élaboré pendant des années.
Et là, on arrive 4 mois avant, disant on va faire un débat de télé, comme ça on va faire un programme. Enfin, c'est ridicule.
Louis Alter de Marielle.
J'ai plutôt le sentiment que, plutôt que de vouloir incarner quelque chose pour répondre à une attente rassembleuse, je crois que chez la gauche, la tentation est plus forte de se compter, en réalité.
C'est-à-dire
de combien de compter, combien
c'est ce que je
fait
crains,
Mélenchon, combien voilà. fait Jadot pour les écologistes. Est-ce que les écolos prennent définitivement le pas sur le PS ou est-ce que les scores sont encore équilibrés ? Est-ce qu'ils se neutralisent ? Voilà, puisque le contexte ne porte pas... Il n'y a pas grand monde qui croit à une victoire de la gauche en 2022, pour dire les choses. On voit que les 4 premiers dans les sondages, c'est Macron, Le Pen, Pécresse, Zemmour. Voilà, et que donc, dans ce moment très compliqué où la gauche cherche à se réinventer, cherche même à survivre d'une certaine manière, la tentation la plus forte peut être de se compter, c'est-à-dire que les écolos disent par exemple au PS, vous voyez bien, on a fait 2 fois plus que vous par exemple, et donc maintenant c'est notre tour.
Pour les régionales, quand Anne Hidalgo demande à sa tête de liste de se retirer, c'était les régionales ou Audrey Pulvar, je me trompe pas.
Elle était candidate au premier tour.
Elle était au premier tour, mais au deuxième tour en réalité. Oui, mais elle a
C'est pas pareil, il suffit de faire 10% des exprimés.
Il n'empêche que le deuxième tour, on ne sait pas comment ça s'est passé, mais Audrey Pulvar n'est plus tête de liste. Elle accepte d'être troisième ou quatrième de la liste. On ne sait pas comment les postes ont été partagés. Donc je vous dis, c'est un peu le retour, c'est cette tentation de retour à la Troisième République où c'est les états-majors des partis politiques ou de ceux qui décident et on ne voit pas ce qui se passe. Il y a une question de transparence. Moi, je trouve ça gênant.
Édouard Dorian.
Paradoxalement, ce que vient de décrire lui aux haltères sur la situation des candidats, est la chose suivante. Il y a un paradoxe, c'est que plus tout le monde est à égalité, assez bas dans les sondages, plus ça bloque la situation. Plus qu'elle, parce qu'il n'y en a pas un qui fait la différence. Et donc, personne, tout le monde a du mal à faire l'effort, à faire le premier pas. C'est pourquoi je crois qu'aujourd'hui, il faut vraiment un vrai dépassement de soi-même. C'est ce qu'a fait, je crois, Anne Hidalgo. C'est ce que propose sans doute aussi Christiane Taubira, qui essaye de bousculer les choses pour aider au rassemblement.
Vous êtes sérieux, là ?
Bah, je crois que si à un moment donné, à la fin, on y arrive, ce serait... Non, mais je crois qu'il faut...
Oh, bah, si.
Non, mais vous savez, quand à un moment donné, les gens disent « Je suis prêt à discuter, je suis prêt à y compris retirer ma candidature, si on se met d'accord sur un socle commun... »
Non, là, j'envisage d'être candidate. J'envisage d'être candidate, c'est pas j'envisage de me mettre autour de la table et discuter.
Non, mais je crois pas qu'elle ira toute seule. Elle a dit elle-même, je ne serai pas une candidate de plus.
C'est pas tout à fait clair.
Donc, elle a dit, je ne serai pas une candidate de plus. Donc, soit j'arrive à rassembler moi, Christiane Taubira, ou soit je suis d'accord pour me rassembler. On commence comme ça. On peut commencer comme ça.
À un moment, quand les Verts disent systématiquement... Nous, nous sommes là, nous avons fait notre primaire. Nous avons
Nicolas,
fait. Venez discuter.
C'est la difficulté.
Venez discuter, après on verra. On voit bien que la partie, elle est jouée.
Mais ils ont raison.
Ils ont raison. Donc, soit Anne Hidalgo dit je me retire pour Jadot parce qu'a priori, il est mieux placé, mais on discute d'un programme, parce que ce n'est pas un retrait en race campagne, mais on discute d'un programme. Et Christiane Taubira dit dans ces conditions, je n'y vais pas. Et ça peut prendre du sens.
Ouais.
Mais il faut qu'elles acceptent toutes les deux d'être derrière celui qui a pris le leadership et qui, de toutes les manières, ne se retirera pas. Je vois mal les Verts, après tout ce qu'ils ont fait, dire on a fait une primaire. On est en avance, nos idées sont devant, on considère que c'est fondamental et on va se retirer parce que éventuellement Christiane Taubira lui qu'elle est candidate, mais ça n'arrivera jamais. Bon, la seule solution, je peux mettre pour Anne Hidalgo et Christiane Taubira, c'est de dire voilà, mettons-nous d'accord, nous nous retirons, on se met d'accord sur les idées, on vous soutient. Ça peut donner une dynamique. Ça peut donner une dynamique.
Donc, c'était pas la peine pour Christiane Taubira de dire j'envisage d'être candidate.
Sauf si c'est une stratégie pour dire ben voilà, je suis une de plus, et puis attention. Mais si c'est effectivement, elle pense qu'en arrivant, tout le monde va se retourner vers elle, elle se trompe complètement. Maintenant, si c'est une stratégie pour dire parlons-nous, s'il faut en arriver par là pour dire parlons-nous, quand on se remémore la vidéo de Montebourg téléphonant...
Ah oui, on avait oublié celle-là.
Aux quatre autres en disant « Parlons-nous, c'est rappelez-moi. » Et toute la journée, il a attendu...
On ne sait pas s'il n'a pas appelé Christiane Taubira.
C'est une autre manière de le faire, de la part de Taubira.
Il a un téléphone,
mais c'est un peu ça. C'est une candidate, ou en tout cas qui envisage d'être candidate, parce que je ne sais pas si Montebourg pourrait être candidat in fine. Il n'est pas à 5%, il n'a pas les parrainages à l'heure actuelle. Donc c'est un peu comme Montebourg, dire parlons-nous, je suis candidate peut-être, mais parlons-nous quand même. Et elle dit un truc important, elle dit je ne serai pas une candidate de plus.
Oui.
Donc c'est-à-dire, il y a une contradiction.
Ça veut dire il y aura un débat.
Elle dit j'envisage d'être candidate, mais je ne serai pas une candidate de plus. Sous-entendu, soit je ne me présente pas, mais on se met d'accord sur une candidature, soit je me présente et puis tout le monde s'efface derrière moi.
C'est une forme de chantage, quelque part, c'est de la pression.
Mais au point où ils en sont, après tout.
C'est des divas, en fait. À gauche, c'est quand même le bal des égaux, le bal des divas. Je vais y aller, mais attention, il faut que vous acceptiez de partir. C'est moi. Qu'est-ce que
sinon, je vais tout casser et j'arrive. Mais je pense que c'est contre-productif pour l'électorat. Sincèrement, je pense que vis-à-vis de l'électorat, c'est contre-productif.
Ah oui, c'est désastreux.
Je pense que l'électorat, qui est quand même catastrophé de voir ce qui arrive à la gauche, ne comprendrait qu'une seule chose, c'est qu'il y en ait deux, trois qui disent « Ok, stop, allez, je me retire. Je me retire, il y en a un qui est le mieux placé, c'est comme ça. Bon, ben, on va essayer de se mettre d'accord sur les idées et puis on va le soutenir. Bon. » Ça, je pense que c'est un discours qui peut être entendable et audible pour les électeurs. Mais attention, si c'est pas moi, je vais me présenter le 25 janvier. Les gens, ils ne comprennent plus rien.
On va avoir les fins de mois difficiles, on va avoir les factures d'énergie qui vont augmenter, on voit une faible augmentation du SMIC, et eux, ils se parlent, ils se battent pour savoir qui va avoir...
D'ailleurs, sur le SMIC, vous aurez remarqué que chacun y va pour rehausser le SMIC de plus en plus.
C'est le coût de la vie. Si vous habitez en Paris ou dans sa
proche... Le pouvoir d'achat, c'est
quand même
un sujet.
Il y a
quand
même un sujet pouvoir d'achat. Je vois pas comment la gauche, si c'est une vraie gauche, qui a vocation à gouverner, donc une gauche sérieuse et radieuse, j'espère. Je vois pas comment la gauche...
Vous êtes très optimiste, j'ai l'impression, d'Ordre Yancipel.
Bien viser l'idéal, comme dit Jean Jaurès.
Ouais.
Mais non, je vois pas comment la gauche ne parlerait pas du pouvoir d'achat. C'est quand même la vie des gens, la principale préoccupation. Et nous savons tous que le pouvoir d'achat va être un facteur qui va peser sur cette élection. Nous savons tous que le prix de l'énergie va augmenter, toutes les projections le montrent, et il va falloir faire face à ça.
Oui.
Et donc, il va falloir, et en effet, dans la situation actuelle, on sort des gilets jaunes, c'est pas terminé, la pandémie a un peu étouffé tout ça. Donc, il y a un sujet vie digne. Il y a beaucoup de Français qui travaillent et qui n'ont pas accès à une vie digne, ne peuvent pas gagner suffisamment par le fruit de leur travail. La gauche, c'est d'abord quand même le travail et le fruit du travail. Et donc, je crois qu'il y a un moment où il va falloir, quel que soit le président, et je voudrais que la gauche le prenne en charge. Anne Hidalgo, d'ailleurs, on a parlé de dialogue social très important qu'elle lancerait. Il faut se fixer des objectifs d'augmenter le pouvoir d'achat et le revenu des Français avec des discussions sociales dès l'élection faite. Faut quand même qu'il y ait nouveau partage des richesses. Que ça ne concerne pas que le SMIC. Le SMIC sert à tirer un petit peu.
Vous avez aujourd'hui Yannick Jadot qui présente notamment une mesure
phare.
J'ai vu. Voilà, un SMIC à 1600 euros net, donc ça fait 125 euros de plus par mois, voilà, qu'il soit porté à 1600 euros net d'ici à la fin du quinquennat en 2027. Hein, donc pas tout de suite. Et aussi, autre mesure phare, dégeler le point d'indice, le fameux point d'indice des fonctionnaires dont on parlait dimanche dernier avec Amélie de Montchalin.
Sincèrement, moi je suis très inquiet de l'état du pays, et qui gagnera l'élection présidentielle, on a 5 ans devant nous qui vont être terribles.
Ah, bien sûr.
Le taux d'endettement n'a jamais été à un tel niveau, le déficit est massif, l'inflation est présente.
Et donc, la crise du logement.
Cette année, on n'aura jamais aussi peu construit.
Ah oui,
aussi peu construit. Bon, pour relancer, il faut un peu de fiscalité, il faut un peu de moyens pour aider, y compris pour l'acquisition du foncier, parce que c'est le coût du foncier qui est très cher. À la fois, on ne veut pas d'étalement urbain, mais on veut du logement, on ne veut pas payer d'impôts. Voilà. Et donc, à un moment, celui qui prend ou celle qui prendra le pays dans 4 mois aura une gestion très compliquée avec un pays qui est fracturé, un pays qui est en crise. Bon. Donc, on peut faire toutes les promesses que l'on veut sur le SMIC à 2000 euros, sur le relan. On peut y aller, c'est open bar. Après tout, on peut dire, pour le quoi qu'il en coûte tout le temps. Mais à un moment, imaginons ce qui va nous arriver lorsque les taux d'intérêt vont remonter un peu.
Mais quand même, on ne peut pas dire, François Pupponi, de toute façon, mesdames et messieurs, ne comptez pas sur une amélioration de votre pouvoir d'achat pour les 5 ans qui viennent. Ça n'existe pas, c'est pas possible.
Non, mais la question, c'est comment tu fais.
Il faut trouver des solutions, il faut faire des efforts, je suis d'accord sur les questions.
Comment on fait? On a vécu à crédit et on a explosé la dette.
Ça ne peut pas être l'infini, mais il faut des discussions.
Vous parlez du pouvoir d'achat, ça nous amène directement à notre prochain sujet, puisqu'après la pause, nous parlerons de cette grève à la SNCF. Grève éclair, pourquoi? Parce que la direction a pris de court les centrales syndicales et a donné la prime le plus rapidement possible, ce qui fait que la base a dit « bah nous on prend la prime et on fait pas grève ». À tout de suite.